On continue notre belle petite étude sur l'Église. Le Seigneur nous révèle plein de nouvelles choses. Aujourd'hui, ce qu'on regarde comme idée, c'est que font les membres de l'Église une fois réunis? Nous, on le sait, mais on le sait par la pratique. Mais est-ce qu'on sait tout en ayant les idées de ce que le Seigneur voudra qu'il y ait dans son Église? Oui, on en parle, moi j'en parle assez régulièrement, surtout dans l'étude de l'Église, j'en ai parlé aussi à plusieurs reprises. Toutes ces idées-là qu'on voit, il y a certains points que c'est des nouveaux points. L'idée, c'est qu'on ait une idée claire, une théorie claire, pour savoir dans quoi est-ce que Dieu nous appelle à être quand on est une Église réunie. Faut pas oublier que si on est ici, assis dans l'Église, que ce soit l'Église ici ou une Église ailleurs, là, si on est assis dans l'Église, c'est toujours pour suivre les ordres de Jésus. C'est lui qui a dit qu'il bâtirait son Église. C'est lui qui a dit à son Église qui était là devant lui, il a dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ça veut dire que le plan de Jésus, le plan du Seigneur, c'est qu'il y ait de toutes les nations qui deviennent disciples. Puis quand tu es disciple, tu fais partie de l'Église. Quand tu es dans l'Église, tu es réuni à quelque part. Que ce soit une église dans une ville ou qu'il y en ait 30 églises dans une ville, des églises du Seigneur, je parle, des églises où ce qui est prêché, la vérité, c'est le plan de Dieu. Puis c'est ça, pour suivre la volonté de Dieu qu'on est là. Parce que lui, il a dit, soyez là, faites des disciples, puis baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. Pour être enseigné, on n'a pas le choix, faut se réunir. Pour recevoir des instructions, faut se réunir. On les entend qui sont répétées à tous les semaines de différents sujets. Les instructions que Jésus veut que l'on observe. Parce que être disciple, c'est de mettre en pratique la parole de Jésus. Comment je fais pour démontrer au Seigneur que je suis son disciple? Sinon, c'est d'écouter ce qu'il dit, puis de mettre en pratique ce qu'il dit. Un disciple, on l'a vu, ça veut dire un élève. On est des élèves du Seigneur. Si on veut démontrer qu'on est ses élèves, bien, faut écouter ce qu'il dit, puis de le mettre en pratique. Fait que s'il dit, soyez là, recevez les instructions, puis mettez en pratique, tu n'as pas le choix d'aller te réunir à quelque part. C'est pour obéir au Seigneur. Les disciples se retrouvent réunis ensemble, cherchant à observer ce que le Seigneur nous a prescrit. Ça, c'est le plus dur de la vie chrétienne. Parce qu'il y a plein de points que le Seigneur nous dit, des fois, ça prend du temps à les appliquer. Pourquoi? Parce que dans notre nature humaine, naturellement, c'est pas naturel pour nous. C'est pas automatique de dire qu'on est des gens religieux, des gens consacrés à la prière, à la louange, puis à écouter, puis à vouloir changer notre vie. D'habitude, on veut rester comme qu'on est, puis on dit, s'il n'est pas content de m'avoir, on lui donne en voulant dire, viens pas m'achaler, fous le camp, va ailleurs. Mais d'habitude, la nature humaine est comme ça. Puis Dieu veut nous amener à être différents. Des brebis qui écoutent, qui suivent le berger comme un troupeau. Puis qu'on devient comme une lumière dans ce monde parce qu'on va vivre une vie qui est différente, enseignée par le Seigneur. Les disciples doivent réaliser ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes le corps du Seigneur sur terre. On a déjà glissé des mots là-dessus. Mais quand tu es son corps, c'est comme si ça sera Jésus qui sera là à ma place. Je suis lui. Chacun de vous, vous êtes Jésus, il habite en vous. Puis si vous commencez à vivre selon ce que Jésus vous dicte, en plus, les gens, quand ils vont vous regarder aller, ils vont dire, ça c'est un disciple de Jésus. Et c'est Jésus lui-même. On est son corps. On est ses représentants. Puis partout où ce qu'on va, on est comme l'extension de la main du Seigneur, parce que le Seigneur peut toucher les autres par nous. Quand on touche quelqu'un, qu'on lui parle du Seigneur, tout ça, la personne est touchée par Jésus, puis elle ne sait même pas. Mais nous, on le sait qu'on est son corps, on est l'extension du bras de Jésus. Partout ce qu'on va, quand on fait du bien, quand on prêche l'Évangile pour essayer de les amener à Jésus, on est comme si ça serait Jésus qui est en train de parler aux autres. Mais en même temps, on est son corps ensemble. Moi, je ne suis pas son corps à moi tout seul. Je suis un membre de son corps. Chacun de nous, on est des membres de son corps. Il y en a un, c'est une oreille, l'autre, c'est un œil, l'autre, c'est le nez, l'autre, c'est les orteils, l'autre, c'est... Tu sais, on a chacun nos dons, nos capacités, on est différents, puis c'est ensemble qu'on travaille tout le corps pour bâtir l'Église, qui est l'ensemble de tous les croyants qui est là. Dans 1 Corinthiens 12, 18, regardez bien ce qui est dit. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Soyez pas étonnés que c'est moi qui est là, c'est parce que c'est Dieu qui m'a placé là puis qui me voulait là comme qu'il l'a voulu ici à Beauharnois. Avant, il y en avait un autre, puis là, aujourd'hui, c'est moi, puis après, je sais plus là, il y en a un autre qui va être là à ma place. Puis chacun de vous, vous êtes là parce que Dieu l'a voulu. C'est sûr qu'on peut dire, je ne vais pas, je résiste à ce que Dieu veut. Oui, on a pleine liberté de faire ce qu'on veut, mais il faut se dire plutôt, si on veut obéir au Seigneur, je dois y aller parce que c'est Dieu qui me plaçait là. Puis c'est vrai que l'autre qui est à côté, il y en a peut-être un que j'aime pas. J'aime pas gros, j'aime pas la face, ou il me dit des affaires qui me blessent. Mais c'est Dieu qui l'a placé là, lui ici. Fait que si on est tous là en tant que disciples du Seigneur, c'est Dieu qui a permis que vous soyez là, qui a voulu, qu'il nous a placés dans son corps comme qu'il l'a voulu, ça dit dans ce verset-là. Ça veut dire que j'ai pas le choix, faut que j'apprenne à travailler avec les autres. Si ce bras-là, il n'est pas content que ça soit ce bras-là qui soit à côté, ben il y a un problème parce que les deux bras font partie du même corps. Si une oreille veut pas que l'autre oreille soit là, ben là, écoute bien, ça marche pas. Là, on est tous des membres du corps, d'un seul corps. Puis comme qu'il l'a voulu, il a placé chacun de nous là, dans le corps, puis on doit apprendre à travailler ensemble. Chaque église locale doit s'organiser et travailler avec les gens qui sont placés par Dieu. Ouais, mais Billy Graham, il n'est pas ici. Oui, c'est vrai, Billy Graham n'est pas ici. Mais il y a d'autres personnes qui font l'ouvrage. On n'aura pas, on peut pas dire un tel n'est pas là ou on n'aime pas un tel qui est là. C'est Dieu qui a décidé que ça soit nous, qui soyons nés dans cette période-là, habitant dans cette région ici, puis travaillant pour l'Église qui est là depuis 12 ans. Puis, tu sais, c'est Dieu qui a fait ça, qui a tout organisé. Fait qu'il faut apprendre à travailler avec ceux qui sont là. Tiens, amen là-dessus. Amen. Puis dans le groupe, il y a des membres plus faibles dans le Seigneur, puis d'autres plus forts dans le Seigneur, mais tous sont importants. Tous sont importants. Chacun de vous, vous êtes important. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, on était sauvés, puis il veut qu'on s'organise ensemble pour former son corps. Dans 1 Corinthiens 12, 20, ça dit, « Maintenant, il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, j'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Oui. Enlève ta petite orteil, puis tu vas perdre de l'équilibre dans ta vie. Dieu, il savait, dans l'Église, là, ici, à Beauharnois, on parle d'ici, on parle pas juste d'ailleurs, qu'il y en a qui sont plus forts, puis il y en a qui sont plus faibles. Puis il faut pas que les faibles se disent, « Oh, ben moi, je suis faible, moi, je m'enterre mon talent. » Non, t'es important, tout le monde est important. Puis celui qui est plus fort dans le Seigneur doit pas mépriser celui qui est plus faible, doit plutôt le supporter. L'Église doit supporter les plus faibles. On est tous importants. C'est ça qui doit se produire dans une Église. Un support des plus forts qui supportent les plus faibles. Puis les plus faibles doivent se sentir importantes parce qu'elles sont importantes aux yeux du Seigneur puis à nos yeux aussi. C'est ça qu'il dit. Je peux pas y dire, oh, j'ai pas besoin de toi. C'est ça que ça dit. Dans l'œil peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Si Dieu vous a placé chacun de vous ici, c'est parce qu'il a besoin de vous ici. On peut pas dire, j'ai pas besoin de vous autres. C'est Dieu qui vous a placé là comme qu'il l'a voulu, comme qu'il a dit, on a vu tantôt. Une église en santé, c'est une église qui est unie et qui travaille ensemble. Il faut apprendre à s'accepter puis à s'investir pour les autres. Dans 1 Corinthiens 12, 25, il dit, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient soin les uns des autres. » Ça veut dire que notre cheminement terrestre doit se faire ensemble. On était placés par Dieu pour être ensemble, puis il veut que notre cheminement à s'encourager dans le Seigneur, puis à travailler pour le royaume de Dieu, on travaille ensemble. On est une équipe, on est un corps. On est tous importants, puis on a tous de besoin de tout le monde. Le Seigneur veut que l'on partage ensemble sa vision des choses. Dans 1 Corinthiens 12, 26, il nous dit, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Ce n'est pas une compétition un contre l'autre. C'est comme une équipe gagnante. C'est comme dans les Olympiques. Là. Quand ils font la course à relais, c'est une équipe. Quand tu joues au hockey, c'est une équipe. Quand l'équipe gagne, toute l'équipe gagne. Même s'il y en a un qui a compté 5 buts, puis l'autre n'en a pas compté, ou l'autre qui a gaulé, puis il en a arrêté 25 lancés. C'est l'équipe qui est gagnante, puis c'est l'équipe qui se réjouisse ensemble à la fin de la partie. Puis on travaille en équipe. Quand tu es une église, tu es une équipe devant Dieu. Puis il n'y a rien qu'un coach, c'est Jésus qui est le coach. Puis s'il y en a un qui souffre, bien, on souffre avec la personne. On prie pour la personne. S'il y en a un qui est béni au bout, bien, on est content qu'il soit béni. On n'a pas de jalousie. On est content parce qu'on s'aime, puis on pense en groupe et non pas en individuel. Lorsqu'on appartient au Seigneur, il est important de discerner le corps de Christ. Parce que si je me mets à mépriser une brebis qui appartient au Seigneur, je me mets à critiquer, je me mets à chialer, je me mets à me plaindre, je me mets à la rejeter, on est en train d'attaquer Jésus. Jésus dit, quand j'étais en prison, vous êtes venu me voir. Quand j'étais à l'hôpital, vous êtes venu me voir. Puis c'est quand tu vas voir un chrétien à l'hôpital, tu es en train de voir Jésus. Fait que quand il est dans l'église aussi, si tu le méprises, si tu critiques contre lui, tu es en train de critiquer contre Jésus. Puis si on reconnaît pas le corps de Christ, que tous les membres qui sont sauvés appartiennent au Seigneur, puis je les reconnais pas, mais le Seigneur peut être obligé de mettre de la pression dans nos vies pour nous faire admettre que, puis nous faire changer d'idée. C'est pas des farces que ce que je vous dis là dans le prochain point. Parce que dans l'église de Corinthe, là, il y avait ça comme problème. Tu sais, on fait des agapés, tout le monde mange. Mais eux autres, ça arrivait qu'il y en a des pauvres, il n'y avait rien à manger. Puis les riches, les plus riches, ils mangeaient à volonté, puis ils buvaient du vin, puis ils mangeaient, puis les pauvres n'avaient rien. Puis là, ça faisait des crises dans l'église. Puis là, ils mangeaient et buvaient sans discerner le corps du Seigneur, mais ils étaient en train de s'attirer un jugement du Seigneur. On voit ça dans 1 Corinthiens 11, 28. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même et ainsi qu'il mange du pain puis qu'il boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Vous savez, quand on se réunit, là, on prend un morceau de pain. Mais le Seigneur, quand il a fait ça avec ses apôtres, là, il a donné un morceau à chacun, mais c'était tout un morceau du même pain. Il a pris un pain, puis il l'a splitté en morceaux, puis il a donné un morceau à chacun. Fait que chacun, en mangeant un morceau, tu manges un morceau d'un seul pain. Qui veut dire que tout le monde a mangé un morceau de ce pain. Ce pain représente le corps du Seigneur, puis moi, je mange un morceau de ce pain, lui-ci. Fait que je dois reconnaître que tous les autres aussi qui ont mangé font partie de ce pain-là qui est Jésus. C'est ça qui est l'image. Puis il dit, si je mange et bois la Sainte Cène, puis que je suis pas capable de reconnaître que quelqu'un est chrétien dans la gang, là, puis que c'est un enfant de Dieu, lui-ci, puis on le méprise, puis tout, puis on parle contre lui en plus, on est en train de manger et boire un jugement contre nous-mêmes. Jugement du Seigneur. C'est pour ça que Paul, en écrivant ça, il a aussi écrit à l'autre verset qui suit, il dit, c'est pour cela que parmi vous, beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Dans cette église-là, il y avait un désordre complet. Le monde, il y en a qui mangeaient à la Sainte-Cène, puis ils s'enivraient. Puis il y en a d'autres, des pauvres, qui n'avaient rien. Puis là, Paul leur a dit, vous n'avez pas des maisons pour manger et boire. Il dit, quand tu es dans l'église, il dit, il y en a un qui a faim, puis l'autre, il s'est rassasié tout seul, puis il n'a pas pensé aux autres. Ça, là, c'est pas agir en pensant aux autres. Pensant que les autres, les pauvres, ils ont besoin d'être fournis. Quand toi, tu n'as, tu partages. C'est pour ça que des fois, il y en a qui n'ont pas de... Puis on partage. C'est ça que Jésus veut, qu'on apprenne à partager entre nous autres. Faut pas attendre que le Seigneur donne une pichenote en arrière de la tête pour dire, hey, qu'est-ce que tu fais là, là? Non. Faut vraiment écouter ce que le Seigneur veut nous montrer, qu'une église, quand elle se réunit, elle vit en communauté, elle vit ensemble, d'un seul pas, ensemble. Celui qui méprise un membre de l'église, il méprise Jésus. Dans Romains 14, 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Dieu va nous faire rendre compte de toutes nos paroles, tous nos agissements. Même si tu es pardonné par le sang de Jésus, ça va être révélé l'autre bord, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Il dit, tout ce que vous avez dit dans vos chambres, ça va être prêché, c'est toi. Tout le monde va savoir tout. Tu ne peux pas cacher rien à Dieu. Il a tout vu, il a tout entendu. Il connaît même nos pensées, puis notre volonté, puis nos sentiments, nos émotions. Il sait tout. Il nous connaît plus que ce qu'on se connaît. Nous, on oublie un paquet d'affaires à propos de nous autres, mais lui, il n'oublie rien. Oui, il veut choisir de ne pas sévir et de ne pas nous punir pour nos fautes. Puis il décide de nous sauver grâce à Jésus. Mais on est tous des pécheurs. Faut oublier ça. Puis quand tu deviens chrétien, tu veux apprendre à marcher comme Jésus va te l'enseigner. Puis l'amour des autres dans l'Église, ça fait partie d'un de ces points d'enseignement qui est bien important. Il manque des gens à l'Église, là, j'aurais aimé que tout le monde entende ça. Parce que c'est important ce que je vous dis là. Dieu veut qu'on arrête de se juger puis de se mépriser. On est tous une église, ça doit marcher ensemble d'un même pas, rempli d'amour les uns pour les autres. Vous avez le droit de dire amen. Surtout en plus si vous le mettez en pratique. Yeshua, il a versé son sang pour s'acquérir de chacune de ses brebis. Pour lui, chacun de nous est important. Je l'ai déjà dit, même la plus petite brebis, la plus faible là, dans son église, si elle sera toute seule à sa planète, Jésus sera venu pour elle aussi, tout seul. Mais là, il est venu pour toute l'humanité, mais... Même pour la plus faible, s'il y aurait eu un que la plus faible des brebis qui serait tout seul sur toute la planète, il serait venu pour payer la dette de ses péchés. Parce que il nous aime et il nous veut avec lui. même la plus petite des brebis. Dans Actes 20, 28, ça nous le dit, c'est comme l'apôtre Paul, il a dit ça à des pasteurs, mais ça s'adresse à tous les chrétiens aussi. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour pas être l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Jésus a versé son sang pour qu'on puisse lui appartenir. Puis il dit de prendre garde à nous-mêmes, puis de prendre garde au troupeau que le Seigneur nous a placé là, dans le troupeau où ce qu'on est. Notre troupeau ici à Beauharnois, c'est chacun de nous, on est dans ce troupeau-là, puis on doit prendre garde les uns aux autres. C'est des brebis que le Seigneur s'est acquises par son sang. Fait que les réunions doivent nous amener à une croissance puis une édification. Si on sort d'une réunion parce qu'on était attaqué, puis on est démoli, puis on était rabaissé, on était, tu sais, tout ce qu'on peut dire de négatif, là, puis sortir tout démoli, là, c'est pas normal. C'est pas de Dieu. Dieu veut qu'on sorte d'ici béni, dans la joie, rencontré, fortifié. On a entendu des paroles qui nous amenaient plus dans le Seigneur, plus dans... Tu sais, on veut sortir béni. Fait que dans Romains 14, 19, ça dit ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Qu'on sorte d'ici en paix, puis édifié. Le but de nos réunions, c'est que nous cherchions à devenir meilleurs. C'est ça le but des réunions, pour qu'on cherche à devenir meilleur. Moi, je veux devenir meilleur dans le Seigneur. Je veux apprendre des nouvelles affaires, je veux amener des nouveaux messages, je veux amener des... Je veux pas répéter toujours les mêmes affaires. Oui, t'as des fois, il y a des choses qui se répètent, mais, tu sais, tout le monde veut se développer. J'espère que vous voulez tous devenir meilleurs. Puis le travail le plus dur, là, c'est relationnel, les uns avec les autres. Devenir meilleur. Qu'on soit des bons frères et sœurs ensemble, tu sais, meilleurs dans notre relation les uns avec les autres. Parce que la théorie, ça, c'est une chose facile d'écouter puis d'apprendre par cœur, ça, c'est facile. Mettre en pratique la communion fraternelle puis la mettre dans, être meilleur dans l'amour puis dans la communion fraternelle, ça, c'est plus tough. Mais on vient à l'Église aussi pour ça. Y en a-tu qui se sont rendus compte des fois que ça frotte, on est comme des papiers sablés des fois, puis on se frotte, puis il y a des fois des choses qu'on faut apprendre à pardonner, faut apprendre à passer par-dessus des affaires. Dans l'église de Corinthe, là, comme l'église que je vous parlais tantôt, il y avait des chicanes, il y avait des divisions. Les divisions, là, c'est que quand ils se forment des groupes, là, dans l'église. Il y en a qui pensent d'une manière, d'autres pensent d'une manière, puis là, ça commence à s'attaquer. Là. Ça, c'est ça, des divisions. Dieu n'en veut pas. Il veut qu'on soit unis, qu'on soit un comme lui est à un avec son Père. Dans l'Église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 11, 17, il dit, « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Ouch! Quand tu es dans une église puis tu sors de là démoli, c'est pas normal. Si tu veux devenir meilleur, tu seras supposé sortir d'ici, te rencontrer, béni, t'es content d'avoir rencontré tout le monde. T'es béni! Parce que c'est là que Dieu a dit qu'il répandait sa bénédiction quand on est ensemble. Il répand sa bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est dans l'église. Faut que tu sortes faut que tu sois dans une église qui te bénit. Puis toi-même, faut que tu veux être une bénédiction pour les autres. Il faut faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche, puis d'amener des paroles qui font du bien aux autres. En Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. S'il y en a un qui me dit à la fin de la réunion, il est plat, il est à plat ton message. Méchante édification. C'est parce qu'il n'a rien compris. Mais il était mieux de se taire que de dire quelque chose qui déplaît. Mais il n'est pas obligé de compter une menterie pour me faire plaisir. Ça, il a juste à rien dire puis ça passe. C'est sûr.
C'était mieux dans le temps qu'il y avait un masque, ça paraissait pas.
Oui, dans le temps de la COVID, on avait un masque, ça paraissait pas. Mais vous comprenez l'idée qu'il faut qu'il sorte de notre bouche des bonnes paroles, que c'est communiquer une grâce. La personne qui l'a entendu, ça lui a fait du bien. Puis je vous dis que c'est pas naturel pour tout le monde d'être capable de dire des bonnes affaires à ses autres. Si vous cherchez de quoi, Didi qui a une belle chemise, il est bien peigné, tu sais, cherche de quoi qui va faire du bien. J'ai aimé ta prière, j'ai aimé ta louange, tu sais, des paroles que tu sors, puis la personne se sent encouragée. Fait que dans l'Église, quand on est ensemble, que ce soit la prière, la louange, les dons spirituels, c'est des bons moyens d'édifier. Dans 1 Corinthiens 14, 26, Paul a dit, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, un chant, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. »
Amen.
Quand tu reçois quelque chose du Seigneur, « Ah, le Seigneur me met à cœur tel chant, puis on chante le chant. » C'est ça qu'on fait quand on fait des après-midi de louange. On chante les chants pour que tout le monde puisse s'en aller en ayant entendu son chant préféré ou son chant qu'il avait à cœur. C'est un moyen d'édification, mais le but, c'est aussi de le chanter à Dieu pour que Dieu aussi soit béni par notre chant. Il faut s'efforcer, frères et sœurs, il faut faire un effort pour garder l'unité de l'esprit. Ça se fait pas automatique. Il faut faire un effort. Surtout si ce matin-là, on s'est levé du mauvais pied, comme qu'on dirait dans le langage québécois. On filerait pas de bonne humeur. Puis peut-être à le goût de critiquer sur quelque chose. Des fois, on charge de quoi à critiquer parce qu'on a le goût de critiquer. On est mieux de rien dire puis que de retourner prier pour pouvoir demander à Dieu qu'il nous donne des bonnes choses. Mais il y a un effort à faire pour conserver l'unité. Dans Éphésiens 4:3, ça dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cherchez à être en paix avec tout le monde, cherchez l'unité du Saint-Esprit. Faire un effort. Parce que lui, le Saint-Esprit, qui est en moi, qui est en chacun de vous, n'est qu'un Saint-Esprit. Lui, il n'est pas divisé. On a tous le même Saint-Esprit qui est dans chaque personne qui l'a reçu. Fait que je dois conserver l'unité de l'esprit. Fait que l'esprit veut m'amener à être un avec tout le monde parce qu'il est dans chacun. Puis il veut que je fasse un effort. Chacun de vous que vous fassiez un effort à conserver cela, cet esprit d'équipe-là. D'être une église, une équipe, un corps. L'unité va nous amener à marcher dans la puissance réelle de Dieu. Si on est dans l'unité, Dieu il est pas dans la division. Dieu il est dans l'unité. Paul l'a exprimé quand il est venu le temps qu'il fallait qu'il fasse une prière, puis il l'a dit dans 1 Corinthiens 5:4, il dit « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus, il a commencé sa prière comme ça, comme si le fait d'être réunis ensemble, connectés ensemble, unis, soudés ensemble, on est dans la puissance de Dieu. C'est ce qu'il dit, vous et mon esprit étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Fait que si on serait une église divisée, toute séparée, puis pas capable de s'accorder même pour prier, il n'y a pas d'unité dans la puissance de Dieu. Il y en a qui peuvent penser l'avoir, puis sont en train de se tromper. Parce que l'unité, la force, la puissance de Dieu est dans l'unité. Le Saint-Esprit est un, puis il essaie de nous amener, puis nous garder unité, puis il dit faire des efforts pour être un, puis il dit c'est quand qu'on est ensemble, assemblés, qu'on est vraiment dans la réelle puissance de Dieu. Si on est tout seul, puis on est en chicane avec tous les autres, faut arrêter de se tromper, on est dans des œuvres charnelles et diaboliques. Parce que c'est en étant regroupé qu'il est possible aussi de vivre la charité qui est demandée par le Seigneur. Le fruit de l'Esprit veut produire en nous l'amour, la vraie amour. La charité, là, c'est l'amour, l'amour profond qui vient de Dieu et qui fait qu'on aime comme Jésus aimait. Là. Pour avoir cela, là, c'est quand tu es uni que tu es ça. Si t'es divisé, puis tu te chicanes avec tout le monde, puis que tu rejettes certains chrétiens parce qu'ils sont pas à ton goût, là, t'es pas dans la charité. Puis le Saint-Esprit veut nous amener dans cet amour-là, dans cette charité. Puis ça, pour arriver à ça, ça le dit en Éphésiens 4:16. C'est de lui, en parlant de Jésus, puis grâce au lien de son assistance, c'est grâce à lui qu'il nous assiste, que tout le corps, il est bien coordonné, puis il forme un solide assemblage. Puis là, il va tirer son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, puis il s'édifie lui-même le corps. Dans quoi? Dans la charité, dans l'amour. Quand tu travailles tous soudés ensemble pour tirer notre force les uns des autres, c'est là qu'on bâtit l'amour de Dieu dans l'Église. C'est là qu'on la vit vraiment. Si on est divisé, on n'est pas dans l'amour. On est dans la chair. Dans la division vient de celui qui cherche à détruire ce que le Saint-Esprit essaie de construire. Ça veut dire, si on a de quoi qu'on veut focusser là, dans la suite de l'année, cherchons à être unis avec l'ensemble du groupe, soudés ensemble, pour recevoir des uns et de donner aux autres, pour qu'on puisse ensemble s'édifier. Ça dit afin, on tire notre accroissement selon la force qui convient à chacune des parties, puis on s'édifie lui-même dans la charité, le corps s'édifie lui-même dans l'amour. Quand tu marches dans cette unité-là, il est très important d'avoir la vision de Dieu sur l'Église afin de ne pas penser à abandonner notre assemblée. Parce que si on n'arrive pas à vivre cet amour-là, le monde veut l'abandonner, l'Église. Puis s'il l'abandonne, tu es en train de pécher contre Dieu. Parce que la Bible, elle dit de ne pas l'abandonner. Entre chrétiens, on doit s'encourager les uns les autres à rester groupés. C'est ce que ça dit dans Hébreux 10:25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Un chrétien n'a pas le droit d'abandonner son assemblée. Oui, s'il s'est rendu qu'il y a des faussetés, là, que c'est un faux prophète qui est là en avant, je comprends, là, c'est un faux docteur, il enseigne des faussetés, puis que oui, ça peut arriver que tu sois obligé de changer d'église. Mais là, prie que Dieu il te guide puis il te montre où tu dois aller, mais tu dois quand même aller à quelque part. Tu peux pas décider de rester chez vous. Parce que ça dit de pas abandonner ton assemblée. L'assemblée, c'est le corps. Puis si tu méprises le corps parce que tu veux pas vivre la vie du corps, tu es en train de refuser ce que Dieu veut que tu vives. C'est simple de même. Celui qui cherche à être à l'écart cherche ce qui lui plaît. Là, on n'est pas là pour faire ce qui nous plaît, on est là pour faire ce que le Seigneur nous demande. Fait qu'il dit, n'abandonne pas ton assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Ça veut dire, encourageons-nous les uns les autres à pas abandonner notre assemblée. Encourageons-nous à rester ensemble, connectés, soudés, s'aimer de plus en plus, se bénir, c'est de même que l'Église, elle a une est vraiment dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu es dans un club social. La présence de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, qui est la gentillesse, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, ça, c'est la vie de l'esprit. Mais c'est le fruit de l'esprit, puis c'est ce qui doit être dans l'Église, les uns avec les autres. Les membres travaillent ensemble, en unissant nos forces pour les mêmes missions. Si, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Église doit apprendre à travailler avec les membres que Dieu a placés là. C'est lui qui les a placés comme qu'il voulait. Avec nos différences, nos caractères, nos manières de voir les choses. Mais il faut apprendre à travailler ensemble, en unissant nos forces pour les mêmes missions. Si chacun de nous, on a toutes des missions différentes, puis on se voit pas, puis on s'unit pas dans rien, il y a quelque chose qui marche pas, là. Mais si l'Église, elle organise des affaires, des missions d'évangélisation pour un impact dans ce monde, il faut essayer d'être là. Ça fait des réunions le samedi, il faut essayer d'être là. Si, tu sais, être impliqué dans le corps pour faire avancer ce corps-là. Ben, le but, c'est pour la gloire de Dieu, qu'il y ait de plus en plus d'âmes sauvées. Surtout, si on aime vraiment les gens qui nous entourent, il faut trouver des moyens pour les attirer à venir faire un tour pour recevoir le message. Une église peut offrir plein de services puis des ressources, mais tout dépendant de Dieu puis des moyens de chacun. Dieu il a permis que ce soit ceux qui sont ici qui sont là. Donc, il faut apprendre à travailler avec ce qui est là comme moyen, comme ressource. On peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais ce qu'on a, on le met ensemble pour être capable de donner, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a permis que je sois là, moi, puis je gagne le salaire que je gagne, puis je fais ce que je peux avec ce que j'ai pour faire avancer là. Si chacun de vous fait le faire, bon, on regarde qu'est-ce qu'on a, puis on travaille avec ce qu'on a, pas avec ce qu'on n'a pas. Oh, si on aurait 1 million, on pourra faire ça. Ben oui, laisse faire ces idées-là, puis commençons déjà à faire ce qu'on a à faire avec qu'est-ce qu'on a. L'Église, elle travaille ensemble dans ce cas-là, comme reçu, comme s'il y a des millionnaires qui se rajoutent, puis il nous remplit les poches de l'Église d'argent, mais là, on fera plus d'œuvres, plus de missions, plus de travail avec ce qu'on aura. Mais on pense pas à ce qu'on aura, on pense à qu'est-ce qu'on a, puis on met ça ensemble pour travailler pour le royaume, faire avancer le royaume. Dans 2 Corinthiens 8:12, c'est ça que Paul a dit. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Fait que quand tu es bien volontaire à vouloir faire avancer les choses, pense à faire avancer les choses avec ce que tu as déjà dans tes poches. L'Église, elle doit fonctionner avec les membres que là. Ah, oh, s'il y aurait plus d'évangélistes, on pourrait évangéliser plus. Oui, mais là, s'ils sont pas là, on attend qu'ils en envoient. On travaillera avec les ceux qui sont là. C'est le même. Puis le Seigneur va pourvoir s'il veut qu'on fasse de plus, enfin plus. Chacun est appelé à s'impliquer au bien-être et à la croissance de l'Église. Dans 1 Pierre 4:10, comme de bons dispensateurs des différentes grâces de Dieu, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Fait déjà, si tout le monde met ses dons à son service, ça va déjà aller beaucoup plus loin. Et peut-être plus vite. Puis je finis avec un dernier verset. Le Seigneur veut nous encourager à travailler pour lui. Dans Matthieu 24, 45, Jésus a dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le Maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son Maître, à son arrivée, le trouvera faisant ainsi. » Ça veut dire, il a donné des dons et des capacités aux gens qui sont là, puis il dit, c'est qui là dans la gang, le serviteur prudent et fidèle que le maître a établi sur ces gens pour donner la nourriture au temps convenable? C'est qui? Chacun de nous faut se sentir concerné, c'est moi pour ce que j'ai, puis chacun de vous pour ce que vous avez. Puis il dit, heureux ce serviteur quand le maître va revenir à son arrivée, il trouvera faisant ainsi. Si on est en train de s'impliquer dans son œuvre, qu'est-ce qu'on a? Quand Jésus va revenir, puis on est en train de le faire, il dit, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens.
Amen.
Dieu va nous bénir au max. Parce que vous savez que dans la vie éternelle, ça ne sera pas juste pour rester planté comme un piquet pendant toute l'éternité. Il va y avoir une vie qui va se vivre. Puis il va y avoir des rôles différents, puis il va y avoir des tâches différentes, puis il y en a qui vont être dans les jobs de direction, il y en a d'autres qui vont être subalternes, il y en a d'autres que peut-être qu'ils vont juste être là parce qu'ils n'ont pas rien fait, c'est d'un sens, comme balayeur des rues en or, mais on va vivre sur la nouvelle terre pendant un bon bout. Sur la terre dans les milléniums, dans les règnes de mille ans, fait que on va avoir des rôles différents, puis différents postes selon le travail que chacun a impliqué. C'est pour ça que Jésus veut nous voir être en train de travailler, mais qu'il revienne. Qu'on soit en action. Qu'est-ce que ça fait, la question du titre du message? Que font les membres de l'Église une fois réunis? Mais les gens, ils se mettent ensemble pour vivre la charité, puis garder l'unité de l'esprit, puis qu'on investit pour le royaume avec ceux qui sont là, ceux que Dieu nous a confiés. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations, Seigneur. Donne-nous dans notre cœur d'être bouillant, d'être prêt à vouloir s'investir dans tout ce que nous sommes, dans tout ce qu'on a pour faire avancer ton royaume. On veut garder l'unité de l'esprit, on veut que le corps s'accroît puis devienne un solide assemblage. On veut que ton église soit bâtie puis qu'elle soit édifiée, mais on te demande aussi d'ajouter des gens à l'église. Bénis chacun des membres de l'Église, que chacun trouve sa place, que chacun s'implique davantage pour le royaume. Puis je te demande d'ajouter d'autres brebis, Seigneur. On remet nos ventres à tes mains. C'est dans le nom de ton Fils Yeshua que je te prie. Amen.